Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à toutes et à tous, amis auditeurs. Je suis ravi de vous retrouver à l'antenne d'Aligre FM sur le 93.1 pour une nouvelle édition de Version originale. Nous nous intéressons ce soir à la démographie, aux questions démographiques comme l'urbanisation, la croissance de la population mondiale, les migrations. C'est ce que nous proposent Jacques Véron et Jean-Marc Rohrbasser dans le livre La démographie de l'extrême, publié aux éditions La Découverte. La démographie de l'extrême, quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés. Cet ouvrage examine comment la fiction s'est saisie des questions démographiques afin d'envisager les perspectives actuelles. En quoi peut être utile à un scientifique comme le démographe le fait de prendre appui sur les œuvres de fiction pour appréhender le réel ? L'écrivain, le cinéaste, doivent-ils traiter la catastrophe pour ne pas qu'elle advienne ? C'est les questions que je propose à mon invité, Jacques Véron. Bonsoir Jacques Véron.
Bonsoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Jacques Véron, vous êtes donc démographe, directeur de recherche émérite à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED. Vous avez écrit ce livre avec Jean-Marc Rohrbasser, agrégé de philosophie et docteur en histoire des sciences. Vous traitez donc dans ce livre divers problèmes, dans ce livre donc écrit avec Jean-Marc Rohrbasser, l'urbanisation, la population bien sûr, la surpopulation, la natalité, le vieillissement, le dérèglement climatique, les migrations, les épidémies. Jacques Véron, votre livre interroge la relation entre une discipline scientifique, donc la vôtre, qui est la démographie, et la fiction. Avant d'entrer davantage donc dans votre livre, parlons de votre discipline scientifique, donc la démographie, comme vous le rappelez. Quand on évoque cette science, on pense tout de suite à la population, au nombre de personnes vivant sur un territoire donné. Et si on allait un peu plus loin, si vous le voulez bien, aujourd'hui, à quelle question au pluriel, répond la démographie, répond le démographe.
Alors une des questions qui a beaucoup occupé et retenu l'attention, c'est la question de la croissance démographique mondiale, parce que dans l'après-guerre, la vitesse de croissance de la population s'accélérait, s'intensifiait, si bien qu'on avait l'idée qu'un jour on ne pourrait plus vivre sur Terre tellement on serait nombreux. Donc ça, c'est une question qui a beaucoup occupé l'attention. Et puis, la question de l'urbanisation, dans un second temps, est devenue du fait que la population devenait de plus en plus urbaine. On est maintenant, la majorité des habitants de la planète habitent des villes. Et finalement, en termes de développement, on ne sait pas trop les villes si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On pourra y revenir. On parle des villes durables, les villes concentrées. Puis finalement, les problèmes de la concentration, c'est aussi quelquefois difficile à gérer. Et la question, par exemple, des migrations, qui est une des questions très importantes aujourd'hui en démographie, elle est apparue assez tardivement en termes de sensibilisation politique, je dirais. Pendant les années, le débat a commencé au milieu des années 70. Mais jusque-là, au lendemain de la guerre, jusque dans le milieu des années 70, l'immigration posait pas vraiment de problème, parce qu'on était sur le modèle où les gens venaient, on allait chercher d'ailleurs au demeurant, venaient travailler en France, et on avait l'idée que quand ils auraient fini de travailler, ils rentreraient chez eux, et que donc ce serait un peu transparent, si je peux dire. Et puis, on s'est aperçu que les gens, une fois qu'ils s'étaient installés, qu'ils avaient des familles, puisqu'il y a eu le regroupement familial, ils repartaient pas, c'était pas si simple. Donc, c'est devenu un sujet politique. Une autre question qui fait débat, c'est la question de la dénatalité. Bon, tout le monde se souvient du président Macron et de son réarmement démographique. L'idée, est-ce qu'un pays doit se préoccuper d'une natalité très basse ou est-ce que c'est la liberté des individus qui est en jeu ? Quand on voit, par exemple, en Corée du Sud, la fécondité, il y a moins d'un enfant par femme. On voit des cas de restaurants où on dit interdit aux chiens et aux enfants. Donc on peut aller dans des situations assez loin. Et enfin, il y a la question des migrations, enfin les questions environnementales, disons, de la relation entre population et l'environnement, beaucoup à travers la question des migrations environnementales ou des migrations climatiques, qui est aussi, mais qui est discutée. Donc tout ça, ce sont des aspects de la population. Quand on parle de la population, ce n'est pas uniquement la croissance, c'est aussi tous ces phénomènes, et puis c'est aussi la mortalité, comment on vit, le fait qu'on vive plus longtemps, et que comme conséquence, il y ait le vieillissement de la population, qui soit devenu un phénomène marquant.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Donc ce sont toutes ces dimensions qu'il faut prendre en compte. Et juste peut-être un point pour terminer, c'est le... On pense que parfois démographie, alors après chacun peut la concevoir à sa manière, mais pour certains la démographie c'est de la statistique en fait, c'est de la statistique de la population. Pour moi c'est beaucoup plus que ça, sans renier la dimension statistique, c'est-à-dire combien il y a de gens qui sont quelque part, mais ce sont aussi les relations entre les gens. Si je prends un exemple, on peut dire combien il y a de personnes âgées ou quelle est la proportion de personnes âgées dans une population, mais il y a aussi quelles sont les relations entre les personnes jeunes et les personnes âgées, les relations avec ceux qui sont actifs. Donc ce sont toutes ces relations qui sont importantes. Les deux aspects doivent être analysés conjointement, je dirais.
C'est-à-dire que la démographie, si je vous entends bien, Jacques Véron, c'est quelque chose en dehors, bien sûr, des données scientifiques que vous exploitez, que vous traitez. Ce sont des choses de la vie concrète que vous observez, que vous vérifiez, que vous ressentez.
Absolument. Mmh. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, je suis allé en Inde, et en Inde, j'ai compris ce qu'était la densité de la population. Dès qu'on s'arrêtait quelque part, au bout de 3 minutes, on était entouré de gens. Et en Chine, à Pékin, au moment de la politique de l'enfant unique, qui favorisait la naissance de garçons, puisque les familles voulaient avoir un petit garçon, et, ben, on voyait dans la rue les gens avec un couple avec un garçon, la plupart du temps, et puis qui le prenaient en photo parce que c'était la merveille du monde. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voyait, il y avait une correspondance entre les chiffres, les réalités et le... Et ce qu'on voyait dans la rue, on peut le dire du vieillissement aussi. Les zones qui sont très vieillies, bah on voit des personnes âgées dans la rue plus que des enfants. Mmh.
Jacques Véron, vous êtes donc démographe. Et cet ouvrage-là, vous l'avez écrit avec, je le dis, avec Jean-Marc Robasser, qui lui est philosophe et docteur en histoire des sciences. Deux disciplines distinctes. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux sur ce livre venant chacun donc, de deux univers différents?
Oui. Alors, on travaille ensemble depuis très longtemps, peut-être depuis une vingtaine d'années, mais effectivement, on a des parcours très différents. Il s'avère que Jean-Marc Robasser a une partie de sa carrière à l'INED, donc c'est là qu'on a travaillé ensemble, mais sur des sujets, on a travaillé sur Leibniz, par exemple, c'était très intéressant. Alors, sur ce cas précis, Jean-Marc Robasser est très passionné de science-fiction, et moi, pendant longtemps, je lui ai dit « Ah non, la science-fiction, j'en ai horreur !» Et puis finalement, je me suis laissé contaminer.
Vous êtes mis.
Je me suis mis, et j'ai compris effectivement tout l'intérêt de la science-fiction. Et donc, partant de textes qui nous ont apparu poser des questions de société, on s'est dit ce serait bien de mettre ça en relation avec les débats d'aujourd'hui. Avec l'idée que la science-fiction pousse les phénomènes à l'extrême, donc on les voit bien. Dans la réalité courante, on ne voit pas toujours les phénomènes, parce que c'est mélangé à plein de choses. Mais là, dans ces romans, les phénomènes sont un peu à l'état pur, d'une certaine façon, si bien que on peut vraiment y réfléchir. Et une fois qu'on y a bien réfléchi, on se rend compte que c'est pas si loin parfois de questions d'aujourd'hui, de questions qu'on se pose ou de questions que nécessairement on se posera.
Ce qui n'est pas très rassurant.
Alors, c'est pas très rassurant. On a beaucoup dit de la démographie, qu'elle nourrissait des peurs, en fait, puisqu'on parle toujours de catastrophes démographiques ou de déséquilibre, si on est moins. On utilise des termes moins violents. Mais on ne dit jamais ce qu'est un équilibre démographique. On ne sait pas ce que c'est, mais le déséquilibre, on dénonce des déséquilibres en permanence. Alors. De toute façon, je crois qu'il faut. La vie des populations, c'est d'être comme ça, c'est qu'elles sont jeunes, puis après elles sont plus âgées. Il y a des choses qu'il faut admettre. Et d'autant plus que les politiques visant à contrecarrer des évolutions naturelles, elles sont la plupart du temps peu efficaces.
Jacques Véron, en page 67 de votre livre, vous indiquez que la démographie présente finalement une sorte de paradoxe autour de ce qu'on peut nommer la mécanique des populations. Expliquez-nous ce qu'est la mécanique des populations et en quoi consiste ce paradoxe.
Alors, le paradoxe, c'est que la démographie, ce qui fait le cœur de la démographie, donc cette mécanique des populations, c'est que si on connaît l'évolution de la fécondité et de la mortalité, nécessairement, la population va évoluer de telle ou telle manière. Le vecteur, ça va être la structure par âge de la population. Et donc, on peut définir, et c'est ce qui est utilisé par les Nations Unies pour établir des perspectives ou des projections démographiques, c'est qu'on fait des hypothèses de fécondité et de mortalité, on applique ces hypothèses à une structure par âge de la population, et ça donne des effectifs et une structure par âge au fil des années, et on fait aujourd'hui des projections jusqu'à l'horizon 2100. Donc ça, c'est la mécanique, si vous voulez. C'est que nécessairement, si on a tel niveau de fécondité, tel niveau de mortalité, on aura nécessairement tel effectif de population à tel horizon. Mais le paradoxe, c'est que la démographie, c'est aussi autre chose. C'est la signification de ces données. Je m'explique, par exemple, si on considère la population d'âge actif. On va dire comment elle va évoluer, la population d'âge actif, au fil du temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des employés. Ça ne veut pas dire que ce sera l'emploi à tel ou tel horizon. Ça dépendra des taux d'activité, de l'âge à quel on rentre sur le marché du travail, de l'âge auquel on en sort. Donc, il y a une dimension qui est plus une dimension sociologique, économique, etc., qu'il faut ensuite combiner à l'évolution démographique stricto sensu. Donc, on ne peut pas se contenter de la mécanique des populations, mais on ne peut pas l'ignorer, parce que si on l'ignore, on dit des choses fausses.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon Émile.
Jacques Véron, comment vous expliquez aussi que les questions de population ont occupé depuis très longtemps une place centrale dans le monde des utopies ? C'est pas parce que vous revenez vraiment à l'Antiquité.
Mais c'est que au fond tout se fonde sur la population. Beaucoup d'auteurs ont eu tendance à considérer que finalement c'était le point de départ de tout. Alors c'est vrai que c'est quand même une évidence qu'il faut qu'il y ait une population pour qu'il se passe quelque chose ou en tout cas que nous en soyons conscients. Et dans les utopies, il y avait vraiment l'idée d'organiser les sociétés, d'organiser les sociétés de manière stable. C'était l'idée de stabilité qui était dominante. Et au passage, d'ailleurs, de qualité de la population. Donc, dans les utopies, finalement, on pourrait dire que c'est un monde idéal d'un certain côté. Mais en fait, c'est un monde dur. C'est un monde où on n'a pas le choix. Et notamment, par exemple, Platon, il organise toute la société avec des règles de mariage. Ce sont les meilleurs qui doivent avoir des enfants avec les meilleurs pour assurer la qualité de la population.
Les célibataires, rappelez-vous, donc, subissent une amende.
Oui, c'est un impôt. Donc, c'est pas un système libéral. C'est un monde qui se veut idéal, mais qui n'est pas libéral. Qui renvoie d'ailleurs aux univers totalitaires, comme a décrit Orwell en 1984, où finalement, pour le bien-être des populations, on les prive de leur liberté.
Jacques Véran, restons sur quelques œuvres de fiction que vous signalez dans le livre, notamment quand on fait référence à Soleil Vert, donc qui est un film paru de Richard Fleischer, paru en 1974, d'après l'œuvre de Harry Winston, donc qui est un romancier. Donc, pour résumer, c'est quand même une vision apocalyptique d'une planète surpeuplée qui subit des catastrophes écologiques. Alors, quand on parle de population, si on veut regarder donc les problèmes de population pour en schématisant, c'est quoi ? C'est le problème, il est de quel ordre ? C'est surpopulation, dépopulation, stabilisation. Qu'est-ce qu'il faut craindre quand on embrasse d'un seul coup d'œil ce qu'on appelle la population mondiale ? Qu'est-ce qu'il faut craindre dans les...
Eh bien, c'était... Dans les années 70 en particulier, c'était la surpopulation. C'était l'idée, c'est le moment où il y a eu la publication du rapport Halte à la croissance, il y avait l'idée que la croissance démographique et que la croissance économique allaient devenir insupportables.
1972.
Oui, 72, Halte à la croissance. Et donc ça a été marquant. Et c'était l'époque où on dénonçait ce qu'on appelait la maudite exponentielle, c'était le fait que la croissance était de plus en plus rapide. Et donc là, personne allait à cette époque-là ne se préoccuper de dépopulation, ni en bien ni en mal, enfin de considérer que le sujet n'était même pas à l'ordre du jour, parce que cette croissance de la population mondiale semblait être sans fin. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu un ralentissement de la fécondité dans les pays développés, puis ensuite dans les pays moins développés, si bien qu'on a commencé à voir un ralentissement de la croissance démographique mondiale. Donc l'idée qu'on allait vers une catastrophe absolue était une idée moins présente dans les décennies ultérieures. Et progressivement sont apparues des situations de dépopulation. Alors à des échelles locales, comme le Japon par exemple, ou l'Allemagne, l'idée de dépopulation à l'échelle de la planète, qui est plutôt vu comme un soulagement, je dirais, par ceux qui s'en réjouissent. C'est-à-dire que dans les scénarios actuels, disons pour faire simple, il y a un scénario central qui donne un effectif de population un peu supérieur à 10 milliards d'habitants en 2100, et puis un scénario de basse fécondité qui suppose que la fécondité de l'ensemble du monde se cale sur celle des pays aujourd'hui développés. Et à ce moment-là, la population mondiale augmenterait, avoisinerait 9 milliards et rediminuerait pour être de 7 milliards à la fin du siècle. Donc ce sont deux scénarios discutés.
Différents, complètement différents.
Complètement différents. Ouais, et certains disent, la dépopulation, elle va être beaucoup plus rapide qu'on dit. En fait, ce scénario de stabilisation autour de 10 milliards, finalement, il est peu vraisemblable, puisqu'en fait, il va y avoir une généralisation des situations de basse fécondité, c'est-à-dire ce qu'on observe dans les pays avancés. Mais ça, rien n'en est moins. Et à ce moment-là, ceux qui défendent... Alors, parmi ceux qui défendent cette position, il y a ceux qui s'en réjouissent, disons les écologistes radicaux, qui disent, puisqu'ils considèrent que la population est responsable de nombreux maux, donc s'il y a moins d'habitants, ce sera mieux pour la planète. Donc il y a cette tendance-là. Et puis une autre qui considère juste que c'est la baisse de la fécondité qui se généralise et qui considère, et enfin qui met l'accent sur le vieillissement, qui est la conséquence inévitable d'une dépopulation.
Bien sûr, l'urbanisation occupe une place importante dans votre livre, Jacques Véran. Puisqu'on parle de population, on parle forcément d'urbanisation, vous l'évoquez. Donc, historiquement, on constate le lien inséparable entre l'urbanisation et l'essor des civilisations. Pour faire simple, tous les progrès humains se sont faits, si je ne me trompe, au sein des grandes villes. Quand vous traitez cet aspect dans votre livre, vous faites référence à deux auteurs de fiction, Robert Silverberg et Nina Berberova. Justement, que nous dit la fiction sur l'urbanisation du monde ?
Alors, ce roman de Robert Silverberg, qui s'appelle « Les monades urbaines », met en scène une urbanisation extrême, avec des tours de 1000 étages, très, très hiérarchisées, donc avec des cités, en cité, avec des niveaux sociaux, des populations différentes selon les cités, et en fait, avec peu... avec une endogamie sociale, c'est-à-dire qu'on ne cohabite pas entre catégories sociales différentes. Et c'est un roman qui pousse à la dérision, puisqu'en fait, il intègre cette urbanisation de ces tours qui sont totalement autonomes, où tout est recyclé, même les corps humains après la mort des populations. Donc, tout cet univers est... permet d'accroître et de favoriser la croissance de la population mondiale. Donc c'est vraiment un jeu sur la dérision, en fait, parce que c'est quand même... C'est une façon aussi de dénoncer la croissance de la population mondiale, mais de la prendre à l'envers, si on peut dire. Et Nina Berberova, elle met l'accent surtout sur la répartition spatiale de la population avec des gens partout. Et donc, c'est une personne qui part en vacances et puis qui, où qu'il soit, il y a des gens autour de lui, il faut qu'il se fraye un chemin. Quand il va se baigner sur la plage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte de l'eau pour qu'il aille se baigner. Donc, aussi des situations extrêmes. Et elle imagine des immeubles inversés, c'est-à-dire qu'un immeuble, des immeubles avec une partie de la population qui vit au-dessus et une sous terre. Et les gens sont actifs, se répartissent les tâches. Ceux qui sont au-dessus travaillent le jour, ceux qui sont en dessous travaillent la nuit, etc. Donc, toujours... On retrouve toujours ces idées d'organisation, enfin, toujours sur un mode de dérision, évidemment, mais qui posent quand même des questions. Aujourd'hui, on commence à parler d'immeubles intégrés. Il y a une société qui a évoqué ce projet. Et donc, qui fait réfléchir à l'urbanisation, à la concentration urbaine, qui peuvent être gérées très difficilement dans certains pays en développement. Parce que, comme vous le rappeliez, l'urbanisation a été très associée à l'essor, au développement, disons, à la croissance économique, à la civilisation, au développement, pendant longtemps. Aujourd'hui, la croissance des villes, elle est largement autonome. Je dirais, elle est indépendante des progrès que les pays font.
C'est-à-dire que ce vieux schéma
n'est plus valable dans les pays en développement, dans les pays pauvres. Ça marche plus comme ça, parce que les gens quittent la campagne pour aller en ville, parce qu'ils ont du mal à vivre à la campagne. Ils vont en ville, ils vont s'entasser en ville, et ils n'auront pas des vrais emplois, donc ils seront dans le secteur informel, ils n'auront pas une vraie activité rémunérée et régulière, donc ils vont vivre dans des situations difficiles. Si bien qu'il y a toute une pauvreté urbaine qui s'est développée avec des bidonvilles. Donc, il y a des gens qui vivent bien en ville, hein, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que ce lien qui paraissait un peu automatique entre urbanisation et
essor économique et
oui, c'est ça, et civilisation, on le ressent moins aujourd'hui, on le voit moins dans les pays les plus pauvres.
C'est ce que vous appelez donc la crise des villes. Vous évoquez cette notion sur l'en page 79,
crise des villes. Je me suis interrogé sur la crise des villes et la crise des sociétés, parce que dans les pays avancés, où la plupart des gens vivent en ville, on voit quand même des dysfonctionnements de la ville, on voit de la violence, par exemple. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la ville qui fabrique ça, ou est-ce que c'est en ville qu'on le voit le plus ?
C'est une vraie question.
Oui, et qu'au fond, c'est juste une des crises des sociétés, et qu'en ville, on y est plus sensible, parce qu'il y a une concentration, parce que les phénomènes sont plus visibles. Et je serais tenté de dire que c'est quand même plutôt une crise des sociétés plus visible dans les villes.
Jacques Véron, on va reprendre notre discussion autour de votre livre « La démocratie de l'extrême » que vous avez écrit avec Jean-Marc Rohrbasser aux éditions La Découverte. Quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés, on en reparle juste après la musique.
In my system,
famine.
Money in my head.
Pockets all I am.
Mama making ends meet. Working like a slave.
Mississippi,
Daddy ain't at home, no.
Father.
Gotta be a man.
Michael Corleone.
Do it for my homegrown.
Sisters, brothers.
Do it for the fam.
Yeah. So tell them that we.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous écoutez Aligre FM.
Pour rappeler le titre du morceau qu'on écoutait, c'était All For Us de Labrinth et Zendaya sur Aligre FM 93.1 dans version originale. Justement, tout à l'heure, avant de se séparer, j'ai dit la démocratie de l'extrême. C'est la démographie de l'extrême. On parle bien de démographie. Quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés, écrit par Jacques Véron, notre invité, bien sûr avec Jean-Marc Robasseur. Alors, évoquons bien sûr une part importante de votre travail, qui est bien sûr l'émigration. Du point de vue du démographe, qu'est-ce qu'un migrant ? Qu'appelez-vous migrant, Jacques Véron ?
Alors, un migrant, bon, d'abord il y a des migrants internes ou des migrants internationaux. Donc, migrants internes, par exemple, à l'époque de l'exode rural en France, il y a eu des migrations internes importantes et ce sont elles qui ont alimenté largement l'urbanisation. Donc ça, ce sont des migrants internes donc qui vivent dans un lieu différent de leur lieu initial. Le migrant international, c'est quelqu'un qui vit dans un pays autre que son pays de naissance. Donc un migrant international, par exemple, il va partir du Maroc, il va venir en France. Et il peut très bien, à la fin de sa vie, revenir au Maroc. Et donc, il disparaît du champ d'observation. Une des confusions quand on parle de l'immigration, c'est qu'on confond, enfin, on associe migrants et flux migratoires. Flux migratoires, ce sont les mouvements de migrants année par chaque année. Si je reviens à mon exemple d'une personne qui est née au Maroc, elle va venir en France, elle peut repartir, revenir, etc. Elle va alimenter des flux migratoires, mais finalement, à la fin de sa vie, revenir dans son pays d'origine. Donc, elle ne sera plus migrante, mais elle aura contribué très largement aux flux migratoires. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à distinguer. Les migrants, la définition est simple, c'est ceux qui vivent hors de leur pays d'origine. Et les flux migratoires, ça, ce sont tous les mouvements qui peuvent être des mouvements d'aller-retour ou de simple aller ou de retour d'ailleurs, et qui peuvent être liés aux crises, par exemple, quand il y a eu en Espagne la crise économique dans les années enfin, autour de 2008, il y a eu des mouvements migratoires très importants d'Espagnols qui sont repartis ailleurs. Et puis après, ils peuvent revenir dans leur pays. Donc, on n'est pas forcément migrant à vie, si vous voulez.
Et vous le disiez également que là, il y a trois dimensions qu'on doit prendre en compte. Donc, le fait d'avoir émigré dans un pays où on est un résident légal. Il y a également l'émigration clandestine. Également, donc, le fait qu'il y a des descendants d'immigrés qui sont dans un pays. Exactement. Ce sont donc trois notions bien différentes.
Oui, oui. Voilà. Parce que quand on parle immigration, par exemple, un immigré, la personne qui a connu une immigration, il reste un immigré toute sa vie. S'il reste dans le pays, un immigré qui obtient la nationalité française, il devient français, mais il reste immigré. Et souvent, on parle des immigrés ou de la population étrangère. Et ce sont donc deux notions différentes, parce qu'un immigré peut être un Français. Après, il y a la dynamique de la population immigrée. C'est-à-dire que souvent, quand on se réfère à la population immigrée, on parle des gens qui ont immigré dans les décennies précédentes, qui ont eu des enfants en France, qui, eux, sont des Français, qui sont enfants d'immigrés, enfants liés à l'immigration de deuxième ou troisième génération, mais qui sont en rien des immigrés et qui sont des Français. Et puis, il y a la dimension, effectivement, vous rappeliez, de la migration clandestine, elle, que par définition, on ne connaît pas statistiquement.
Jacques Véron, vous évoquez donc deux œuvres littéraires qui mettent en scène des déplacements de population en raison des perturbations de l'environnement. Vous soulignez donc Les raisins de la colère de John Steinbeck, ainsi que Ouragan de Laurent Godet.
Oui.
Bien sûr, ce sont deux textes écrits à deux périodes très différentes de ce siècle. À quelle prise de conscience nous porte chacun de ces deux romans à sa manière, j'ai envie de dire?
Alors, les raisins de la colère, je trouve que c'est ce sont des migrations climatiques avant la lettre et qui permettent de bien voir, de bien comprendre ce que sont les migrations climatiques. Parce qu'on a un peu un modèle en tête où il se passe un événement catastrophique et les gens partent et puis on ne s'occupe pas très bien de savoir d'ailleurs où ils vont. Les raisins de la colère montrent très bien tout le problème. D'abord, si les gens partent, c'est qu'il y a une catastrophe environnementale. En l'occurrence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le bassin de poussière, c'est-à-dire des vents et de la poussière qui envahissent et submergent tous les territoires. Donc les gens ne peuvent pas rester sur place. Et ils vont partir. Ils vont partir en Californie, parce que la Californie, on leur a dit qu'il y avait beaucoup de... que la vie serait facile, qu'ils auraient du travail dans l'agriculture. Et donc, on suit tout leur parcours, qui est un parcours chaotique. Et d'autant plus chaotique qu'en Californie, on ne les accueille pas bien. Des gens, par exemple, qui viennent de l'Oklahoma, on les appelle les Hokies, et ils font l'objet d'un rejet de la population californienne. Donc ils vont faire tout un trajet pour aller en Californie et ils vont n'avoir que des désillusions en arrivant sur place. Donc ça, c'est un premier élément qui est de dire c'est pas si simple. La migration climatique, c'est pas si simple. On peut y revenir. Et le deuxième élément, c'est le choc climatique. En fait, si on regarde bien ce qui s'est passé dans cette région, c'était dans les années 30 aux États-Unis, donc ce qu'on appelait le bassin de poussière, Dust Bowl. En fait, ce qui s'était passé, c'est que ces zones n'étaient pas du tout cultivées. Et puis les terres ont été attribuées, c'était des terres, c'était des prairies. Les gens ont défriché, ont mis en culture ces terres. Ils ont labouré allègrement, donc ils ont beaucoup fragilisé les sols. Et puis il y a eu, à un moment donné, des vents très violents qui ont fait partir toute la... en poussière un peu tout ce qui est les sols. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un phénomène qui est purement naturel. Ce n'est pas juste parce qu'il y avait quelque chose et puis qu'il y a eu des vents soudain. C'est qu'il y a eu une agriculture qui a été qui a fragilisé beaucoup les sols, qui a contribué à ce phénomène. Et souvent, on pourra voir dans les phénomènes climatiques, comme ça a été, et on pourra revenir sur l'ouragan, c'est qu'il y a une part humaine dans l'événement catastrophique, l'événement environnemental catastrophique. Donc, le roman Raisin de la colère, ça montre que c'est pas si simple la migration, que les gens, quand ils partent, quand ils peuvent pas faire autrement, et que le problème de leur accueil est une question, une vraie question. Et on l'a vu beaucoup plus récemment dans le cas d'un ouragan au Mozambique, où les populations ont été déplacées, puisque il y a eu des inondations. Et en fait, on les déplace et on les relocalise au milieu d'autres populations qui voient d'un très mauvais œil leur arrivée sur des terres, puisqu'après, il faut partager les terres dans les zones d'accueil. Donc, ce n'est pas du tout... Les migrations climatiques, c'est pas du tout quelque chose... on revient un petit peu à ces notions de mécanique des populations. C'est pas une cause, un effet. Ce sont des phénomènes complexes avec des désillusions, des difficultés d'insertion dans la zone d'accueil, etc.
En tout cas, aujourd'hui, Jacques Viron, est-ce qu'on constate une accentuation des déplacements de population à cause des problèmes du climat?
Alors, on voit des déplacements... Et ouragan le montre bien.
Laurent Godet.
Oui, le fait que les gens partent, les gens ne partent pas de gaieté de cœur, ils essaient de revenir. Et dans le cas d'espèce d'ouragan, donc c'est l'ouragan qui a frappé, Katrina qui a frappé
La Nouvelle-Orléans,
oui. Mais finalement... ce sont les plus pauvres qui ont été le plus touchés, et les plus pauvres sont partis, mais ils sont partis très tardivement, donc ils ont subi la catastrophe, ils ont souffert beaucoup plus que les riches de cet ouragan, et comme ils habitaient dans les zones inondables où les logements n'avaient pas une grande valeur, ils ont été très peu indemnisés de leur... des destructions, ce qui fait que ça a été plus difficile pour eux de revenir. Mais ce sont des déplacements, et dans quelle mesure est-ce que ce sont des migrations? Et si on regarde d'autres événements catastrophiques de ce type, comme des tsunamis ou des cyclones, on voit les gens se déplacer, les déplacements peuvent être très massifs, mais les gens vont essayer de revenir s'ils peuvent. Et dans le cas du Mozambique que je citais, les populations veulent revenir dans leur zone de départ, même si elles savent qu'elles sont exposées à des inondations, parce que c'est là que sont leurs terres, et c'est là qu'elles pensent que leur savoir-faire est applicable, alors qu'il ne l'est pas ailleurs. Ailleurs, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, cette question de l'attachement attachement à la terre, l'attachement au lieu de vie, est une question très importante qui fait que ce lien mécanique entre événement environnemental et migration ne s'observe pas dans tous les cas de figure.
Alors, bien sûr, les épidémies occupent une place importante dans votre livre. Bien sûr, on évoque bien sûr l'épidémie de Covid-19, qui donc... Alors, déjà en tant que démographe, 5 ans après l'apparition de cette pandémie, quel bilan peut-on tirer sur le fonctionnement de la population mondiale depuis cette pandémie?
Cette pandémie a beaucoup perturbé la population mondiale, mais en termes numériques, strictement numériques, l'effet n'a pas été majeur. Il y a eu un effet sur la fécondité, de retard de la fécondité, mais avec un certain rattrapage. Il y a eu un effet sur l'espérance de vie, mais qui, en termes d'espérance de vie, n'a pas été très important au vu du critère. Il y a eu par contre des effets sociaux importants dans l'organisation du travail, la façon dont les... Mais ça n'est pas... Si vous voulez, les catastrophes, enfin les épidémies, je veux dire, peuvent être terribles, mais elles ne vont pas, de manière générale, ralentir la population, par exemple la croissance de la population. Et ça, on l'a bien vu avec le sida. Parce que finalement, on avait l'idée, après la guerre, d'abord, que les épidémies allaient disparaître.
Ce n'est pas le cas.
Oui, c'est pas le cas. Et c'est avec le sida qu'on a pris conscience. Le sida a été vraiment un choc, parce qu'il y a eu conscience du fait qu'on ne maîtrisait pas du tout les épidémies. On pensait que c'était les temps anciens, on se souvenait de la grippe espagnole. Alors, au début du sida, il y avait l'idée que finalement, ça touchait des populations particulières, les homosexuels, les haïtiens, les hémophiles, et que c'était pas tout le monde concerné. Et puis le développement du sida en Afrique a montré que finalement ça touchait tout le monde et que c'était une épidémie majeure. Et à ce moment-là, on s'est dit, oui, ça va réduire la population, et notamment la population d'Afrique. Les gens pensaient que ça allait réduire considérablement la population africaine qui était très touchée. En fait, non, ça a ralenti la croissance, mais ça n'a pas entraîné un déclin des populations très concernées, très touchées, comme l'Ouganda, par exemple. Et donc, ça a amené à changer le regard sur les épidémies. Et donc, effectivement, l'épidémie de coronavirus a été quand même une surprise. Mais si on regarde de près, il y avait quand même beaucoup de gens qui travaillaient déjà sur les maladies, ce qu'on appelle les maladies émergentes ou réémergentes, c'est-à-dire des maladies anciennes qu'on croyait avoir disparu et qui reviennent. Et la fiction s'est pas mal intéressée à ces questions sous l'angle de la peste. Bon, on connaît la peste de Camus, mais aussi un roman sur la peste de Jack London, qui est plus ancien. Et puis une épidémie d'encéphalite mise en scène par Robert Merle. Toujours avec l'idée que des populations vont disparaître, alors que certains seront peut-être épargnés. Et en fait, ce qui est frappant, c'est quand on regarde ces romans, enfin, quand on lit ces romans, on se rend compte que les auteurs voyaient bien les étapes par lesquelles les populations passaient quand il y avait une épidémie qui apparaissait. C'est particulièrement vrai chez Camus, dans La Peste. La tendance à nier l'événement, par exemple, au début, les autorités relativisent, disent « c'est pas grave », etc. Puis après, le côté désemparé, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de masque. Et puis après, on se met à faire une comptabilité jour par jour de ce qui se passe, et pour voir si ça s'améliore ou pas. Enfin, tous les éléments, les événements sont décrits et on a l'impression d'avoir vécu vraiment ce qu'on a vécu nous au moment du coronavirus. Alors, ce qu'on a dit, c'est que finalement, le monde d'après, on a parlé beaucoup du monde d'après. Quand on regarde une perspective historique, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu beaucoup de monde d'après, parce qu'il y a eu quand même des grandes épidémies. Bon, la plus célèbre, c'est la peste noire.
XIIIe siècle.
Oui, qui a décimé les populations européennes. Mais il y a eu l'histoire humaine est faite de beaucoup d'épidémies, et les populations ont dû s'adapter à ces épidémies. Donc nous, c'est aussi maintenant ce qu'on a compris, c'est qu'on n'était pas protégé de toutes les épidémies possibles. Et je pense que c'est ça la leçon la plus forte du coronavirus, c'est que ça nous a sensibilisés à des questions qu'on croyait résolues. Quoi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Culture, société, création. En version originale, Patrick, Léon Émile.
Je suis en compagnie de Jacques Véron, qui publie avec Jean-Marc Robasser « La démographie de l'extrême » aux éditions La Découverte, quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés. Jacques Véron, quand on parle de population, il faut parler donc de nourriture, il faut nourrir cette population. Oui. C'est un truisme d'affirmer ça. Et donc, vous écrivez que le premier défi de l'humanité, c'est bien d'assurer la sécurité alimentaire pour tous, Or, c'est loin d'être le cas aujourd'hui, puisque vous soulignez que l'Organisation des Nations Unies, donc pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, estime à 735 millions le nombre de personnes souffrant de la faim en 2022, ce qui correspond à plus de 9% de la population. Alors déjà, le chiffre est... Comme on a du mal à imaginer ça aujourd'hui en 2024, qu'il y a autant de personnes qui souffrent de la faim. Et j'ai souvent lu que c'était moins une question d'approvisionnement que de répartition. Qu'il y avait de quoi nourrir la planète, mais c'était une question de répartition. Est-ce que ce schéma est encore valable ou pas ?
Oui, tout à fait, oui. Parce qu'il y a eu des estimations... concernant la production alimentaire, est-ce qu'elle permettait de nourrir, par exemple, 10 milliards d'habitants dans des projections. Les projections concluaient que c'était possible de nourrir 10 milliards d'habitants, et même en considérant que cette production pouvait se faire sans une dégradation majeure de l'environnement, puisque c'est quand même une des questions. On peut nourrir la planète, c'est un peu l'expérience qu'il y a eu des révolutions vertes. Quand il y a eu les révolutions vertes dans les années 60, donc fondées sur l'utilisation d'engrais, l'irrigation, les pesticides, il y avait effectivement les rendements agricoles ont beaucoup progressé. Et on a considéré que les problèmes d'agriculture et d'alimentation étaient résolus une fois pour toutes. Puis finalement, progressivement, on s'est rendu compte qu'on dégradait les sols, que l'eau, elle n'était pas infinie, parce qu'il y avait aussi les villes qui pompaient dans les nappes phréatiques, puis il y avait et puis maintenant, il y a le réchauffement climatique qui vient compliquer le jeu encore. Et donc, ça n'était pas si facile en tout cas, les promesses de la révolution verte, elles ne pouvaient pas être tenues indéfiniment. Donc, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent qu'avec le progrès technologique, on résout tout. Les experts considèrent qu'on peut nourrir 10 milliards d'habitants sur Terre sans dégrader de manière majeure l'environnement. Mais par contre, c'est ce que vous disiez, c'est la question de la répartition et surtout de la solvabilité des populations. Il ne suffit pas qu'on produise en quantité suffisante. Il faut que les populations qui habitent dans des pays pauvres soient en mesure d'acheter de la nourriture si elles n'en produisent pas chez elles. Et phénomène qui est compliqué par le fait que même si elles ont même si elles ont des ressources agricoles chez elles, il y a une tendance à produire ce qu'on appelle les cultures de rente, c'est-à-dire des biens qui vont être exportés plutôt que des cultures vivrières moins rentables. Et donc, il y a une concurrence qui s'installe entre les activités exportatrices et les activités nourricières. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait une solvabilité. Donc, c'est toute la question de la vulnérabilité alimentaire et de la dépendance alimentaire. Et un des objectifs de développement, c'est bien d'assurer la sécurité alimentaire pour chaque population, pour chaque pays. Mais c'est un vrai enjeu. Donc, effectivement, il ne suffit pas d'avoir la quantité maximale correspondant à la population d'ensemble. Il faut qu'on puisse la répartir correctement entre les pays.
Est-ce que le démographe constate que la famine est souvent un enjeu, une arme politique ? On évoque même le fait que les famines ne sont en quelque sorte jamais naturelles, qu'elles sont parfois provoquées et voulues. Quel regard vous portez là-dessus ?
Oui, il y a eu des exemples, effectivement, en Ukraine, par exemple. Après, ce n'est pas forcément organisé, je ne pense pas, de manière consciente. Il va y avoir il peut y avoir un accaparement des ressources par des groupes, par exemple, par des grands groupes, qui va être défavorable aux populations locales et qui vont payer le café, par exemple, en dessous de sa valeur. Je ne crois pas à une organisation, si vous voulez, consciente et volontaire. Je crois plutôt à des effets pervers de comportements de gens qui recherchent le profit à tout prix.
Jacques Véron, puisque donc dans votre livre, vous prenez le parti d'étudier tous ces problèmes démographiques à l'aune, un peu sous l'éclairage donc des œuvres de fiction. Vous me l'avez dit un peu au début, mais j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Dans quelle mesure, justement, ces œuvres de fiction vous sont-elles utiles? Alors, plus précisément, sur les problèmes démographiques, les questions soulevées donc, par les auteurs de fiction que vous analysez, est-ce qu'on peut dire parfois leur regard est plus pertinent que peut l'être ceux de scientifiques?
Mais écoutez, pour vous répondre, je prendrai l'exemple du vieillissement. On a des auteurs. Alors, il y a un auteur ancien qui s'appelle Swift, qui a écrit dans son Voyage de Gulliver, qui a mis en scène une population dans laquelle il y avait des gens qui devenaient immortels. Mais ces gens qui devenaient immortels, en fait, on les marginalisait très progressivement, leur enlevait tous leurs droits, ils se dégradaient physiquement, mais ils restaient vivants. Et donc on peut se dire, ça fait réfléchir à cette notion de on se félicite de l'accroissement du nombre des centenaires, par exemple. Est-ce que c'est, jusqu'à quel point c'est souhaitable, même si on va pas dans une perspective d'immortalité, mais en tout cas simplement de vie très longue, jusqu'où la vie très longue est satisfaisante s'il y a une dégradation et une marginalisation? Donc ça renvoie à des questions qu'on rencontre dans les EHPAD, la gestion des EHPAD par exemple. Et il y a d'autres auteurs. Alors, il y a un auteur qui met en scène un examen que les personnes âgées doivent passer régulièrement pour vérifier qu'ils sont en bon état de marche. Et ça terrifie un petit peu. Et en même temps, on se dit, est-ce qu'un jour il y aura ça dans l'utilisation de, par exemple, dans les bénéfices de la médecine? Est-ce qu'on les appliquera à tout le monde, à des personnes très très âgées, ou est-ce qu'on dira non, ils sont trop âgés pour subir telle opération très coûteuse? Et il y a un autre auteur qui imagine de manière assez terrible une gestion du vieillissement, une gestion financière du vieillissement, de manière à ce... Et donc, c'est une histoire de gens qui partent dans des trains, ça s'appelle Eternity Express, et c'est vraiment un roman très, très cruel, mais, mais qui quand même amène à se poser des questions, de dire comment les personnes vivent, dans quelles conditions, et lui imagine ce qui sont en fait des trains de la mort, que ça fait penser à la Shoah. Mais donc, ce n'est pas pour dire que ce sont les scénarios les plus probables, loin de là, mais ça permet de mettre le doigt sur des questions d'aujourd'hui qu'on ne regarde pas forcément de très près. La question des EHPAD, bon, tout le monde ne vit pas, ne termine pas ses jours dans les EHPAD. Il y a une grande partie de la population qui peut finir ses jours à domicile, et notamment c'est une revendication. Mais quand les gens sont dans les EHPAD, on n'a pas trop envie de regarder ce qui s'y passe. Et c'est pour ça qu'il y a eu un scandale qui a été dénoncé. Et donc on a envie d'occulter un peu les choses qui nous dérangent.
Mais est-ce qu'aussi on ne pourrait pas dire que ces œuvres de fiction nous aident à imaginer le pire pour permettre d'étudier les meilleures solutions pour empêcher ce pire d'arriver?
Oui, tout à fait. Je pense
c'est un peu naïf de penser ça.
Oui, mais, oui. Je pense que vous avez tout à fait raison. Ça met le doigt sur... on dit toujours, nous, c'est le passage à la limite, c'est ici, on va à la limite de certaines choses.
D'où le titre du livre, d'ailleurs.
Oui. Et en fait, comme on n'a pas envie de voir ces choses se réaliser, qu'est-ce qu'on fait? Mais après, ça renvoie à deux questions. À une question des choix que la société fait, et est-ce qu'elle effectue des choix? Et puis la question des interventions de l'État, et ça renvoie à la question au départ, dans les utopies, les sociétés fermées où les États, en fait, sont très présents. Est-ce qu'on met en place des politiques pour faire évoluer les phénomènes différemment de ce qui serait l'évolution naturelle? Et là, c'est d'autres questions. C'est la Chine avec sa politique de l'enfant unique, qui était une politique autoritaire, et puis qui après abandonne sa politique de l'enfant unique pour plutôt favoriser les familles nombreuses, en tout cas une remontée de la fécondité. Donc tout ça, le pilotage, je dirais, des populations ne se fait pas de manière simple et efficace. Je pense que beaucoup des phénomènes se nourrissent eux-mêmes.
Vous-même, Jacques Véron, quel lecteur de fiction vous êtes ? Est-ce qu'à côté de vos travaux de scientifique, vous avez toujours lu de la fiction, les romans ?
Oui, j'aime bien la littérature. Et alors, comme je disais au départ, pas du tout science-fiction. C'est pour ça aussi qu'il y a un peu de littérature, il n'y a pas que de la science-fiction notre livre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, par exemple, avec un texte de Georges Perec sur l'immigration, qui faisait bien sentir aussi cette question de l'immigration, l'immigrant qui devient un immigrant et toujours avec l'idée qu'il a des illusions, qu'il pense que ça va être une vie de rêve dans le pays d'accueil et qu'il va être face à des désillusions. Mais donc oui, là, après, la littérature générale, oui, j'aime bien la littérature hors démographie. Je ne considère pas que le monde, que tout se ramène à la démographie.
Merci Jacques Véron. Je rappelle le titre de votre ouvrage, écrit avec Jean-Marc Robasseur, La démographie de l'extrême, quand la fiction anticipe l'avenir des sociétés. C'est publié aux éditions La Découverte. Merci encore.
Merci de m'avoir invité.
Amis auditeurs, auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés. À la réalisation technique ce soir, Armand Gury. Merci Armand. Dans quelques instants, c'est Dancehall Reggae Vibes. C'est à 22h30. Audiométrique, donc restez à l'écoute d'Aligre FM sur le 93.1. Je vous retrouve samedi prochain 19h. À bientôt, bonne soirée, bonne semaine.
Version originale, Patrick, Léon Émile.
Waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got to win the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster send us the corner hugger. Seeing this nigga shining and annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony. Got Montana motors. You bought 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we loking. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to FNH is what I'm holding. A buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look Freddy, a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Chefing up the crack, the heroin, the weed, out of car. I call it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, through some bells on the scale and I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary go see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.